Quand le Bouddha Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par la pratique de toutes les vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous allons continuer l'exploration, l'étude du karma. Donc, nous avons déjà évoqué les relations entre les passions et les états de conscience du samsara, comment des états passionnels dans leur dynamisme, dans leur activité, induisent des états de conscience samsariques. Nous avons vu aussi précédemment les notions de karma collectif et de karma individuel, karma collectif générateur des apparences de l'environnement et karma individuel des spécificités personnelles à chacun, de chaque vivant. Nous avons aussi vu karma inducteur, karma complémentaire. Nous venons de voir dans les chapitres précédents les différents types de résultats karmiques, les quatre grands types de résultats karmiques, à pleine maturité, puis conforme à l'acte initial, conforme à l'expérience initialement subie, et ensuite le résultat d'ambiance environnementale. Nous allons maintenant envisager des compositions de karma. Alors, un petit peu plus, façon un peu plus élaborée, des compositions intervenant dans la spécificité et l'intensité des résultats. Et les différences qualitatives et quantitatives dans le karma. D'abord, si chacune des six passions engendre bien le karma spécifique correspondant à la naissance dans un des mondes du samsara, ce que nous avons vu, l'intensité globale du karma détermine aussi cette naissance. Donc, un karma au sens d'un conditionnement, d'une polarisation, d'une fixation extrêmement intense, un karma globalement négatif de grande force, fruit d'une accumulation de nombreux actes nuisibles, conduit en un état infernal. Un karma globalement négatif, mais de force moyenne, amènerait dans un état d'esprit avide. Et un karma toujours globalement négatif, mais de force moindre, mettrait dans une condition animale. À l'inverse, si un karma est à dominante positive, il induit une naissance suivant sa force dans l'un des trois mondes supérieurs. Donc, cela peut se comprendre en termes d'intensité de la polarisation qu'induit le karma. Et si vous vous souvenez, nous avons vu que les états d'existence inférieure sont les plus duels, les plus polarisés, alors que plus l'on monte dans la hiérarchie des états de la conscience, plus ceux-ci sont libres et ouverts, moins ils sont polarisés. Le karma est ce qui fabrique, ce qui induit la dualité et ce qui solidifie celle-ci. La force d'un acte spécifique, sain ou malsain, et celle de ses suites, malheureuses ou heureuses, dépendent aussi de la qualité vers qui ou de ce vers quoi l'acte est dirigé. Donc, qualité du sujet ou de ce vers qui, vers quoi l'acte est dirigé. De plus, dans l'acte proprement dit, la présence et l'absence de plusieurs facteurs interviennent, quatre facteurs. Ainsi, la force d'un karma dépend de l'intention d'accomplir l'acte, du passage à l'acte, donc mise en action, passage à l'acte, de la réalisation effective de l'acte en question, et ensuite du sentiment éprouvé par rapport à celui-ci après son accomplissement. Donc ça fait 5 facteurs, la qualité de ce vers qui, vers quoi l'acte est dirigé, l'intention, le passage à l'acte, l'accomplissement de l'acte et l'état d'esprit subséquent. Prenons un exemple. La force du karma et les conséquences de l'action de tuer seront à leur maximum dans le regroupement de ces différents facteurs, ces 5 facteurs. Il y a la qualité spirituelle de la victime, donc la qualité de ce vers qui l'acte est dirigé, l'intention d'accomplir l'acte, la préméditation du meurtre dans l'intention, la tentative d'homicide, le succès de celui-ci, personne n'est vraiment tué, et la satisfaction de son accomplissement, le contentement d'avoir tué. La présence de ces 5 éléments donne une force maximale au karma. Quand il en manque 1, 2 ou 3, son intensité et ses conséquences en sont diminuées d'autant. Donc, il est finalement plus négatif d'accomplir un acte négatif vis-à-vis d'une personne dont la qualité spirituelle est élevée. Cela peut sembler curieux, on peut se demander pourquoi. En fait, il est plus difficile d'avoir de mauvais sentiments ou des passions à l'égard de personnes qui en sont dépourvues. Ça nécessite de la part de l'auteur, si on reprend l'exemple de l'agressivité, une pulsion agressive beaucoup plus grande dans la mesure où la personne en face n'est pas, ne stimule pas ou n'est pas elle-même dans l'expression d'agressivité. Donc, plus la personne est spirituellement élevée, c'est-à-dire, disons simplement, libre de passion et d'illusion, plus l'acte négatif commis à son égard nécessite une pulsion intense et, en ce sens, plus le karma est fort et intense. Alors ensuite, la motivation génère du karma. Si on reprend l'exemple de tuer, la préméditation d'homicide, puis le passage à l'acte, la tentative de meurtre, puis le résultat, meurtre s'il a véritablement lieu, et ensuite la satisfaction éventuelle d'avoir accompli avec succès l'acte en question. Et si on continue cet exemple, là il y a un maximum d'effets karmiques et on pourrait dire aussi qu'il y aurait dans la justice humaine une sanction pénale maximale. D'une façon similaire, pour un acte positif comme celui de donner, sa qualité et sa force dépendront aussi de la qualité de celui à qui le don est fait, de l'intention et de la motivation bienveillante avec lesquelles le don est fait, du don proprement dit, car il s'agit de donner la chose adéquate, de la façon de donner, respectueusement et de manière juste, du résultat, de la façon dont il est reçu, et du profit qu'il fait à son destinataire. Donner à la qualité de la personne à qui l'on donne, l'intention, la motivation, la bienveillance qui sous-tend le don, la façon dont le don est fait, il s'agit de donner la chose adéquate et de le bien faire, de le donner respectueusement, avec attention. Ici, la façon dont le don est reçu et du profit qu'il fait à son destinataire. Donc, tous ces éléments interviennent dans l'intensité et la force de l'acte bénéfique. Avec, finalement, l'état d'esprit du donateur, une satisfaction sans attachement à ce qui a été donné, ni regret. Donc, être heureux et ne pas être dans une attitude de regret. Là, j'ai beaucoup donné, peut-être que, voilà, une attitude d'attachement. Il y a aussi différentes façons de produire ou de ne pas produire du karma. On peut produire du karma en agissant de façon positive ou négative, mais on peut aussi développer du karma sans agir physiquement. Par exemple, en se réjouissant des actes positifs ou négatifs d'autrui. Donc, sans qu'il y ait une action physique, mais dans l'action mentale ou spirituelle de la réjouissance, on participe à l'activité bénéfique ou maléfique, en l'occurrence, d'autres personnes. Donc, cela génère aussi du karma. Et un exemple célèbre, l'histoire du roi et de la mendiante. Un grand roi avait invité le Bouddha Sakyamuni et son entourage et leur présentait chaque jour de nombreuses et riches offrandes. Chaque soir, Bouddha énonçait une dédicace spéciale mentionnant les bienfaits du roi dont celui-ci était très fier. Un jour, arriva dans l'assistance une pauvre vieille femme d'un village voisin. Devant la générosité du roi, elle regrettait de ne rien avoir à offrir au Bouddha Sakyamuni et pensa que c'était sans doute le résultat de vies précédentes où elle avait dû être avide et mesquine, alors que le roi, lui, devait avoir été très généreux pour pouvoir aujourd'hui faire toutes ses offrandes. Elle trouva merveilleux les bienfaits du roi, en fut vraiment contente et s'en réjouit sincèrement. Ce soir-là, lors de la dédicace, au lieu de mentionner, comme à l'accoutumé, le nom du roi, Bouddha Sakyamuni nomma la vieille mendiante. Surpris, le roi s'enquit auprès de lui. Bouddha Sakyamuni, qui connaissait évidemment son esprit et celui de la vieille mendiante, dit « Vous faites à mes disciples et à moi-même de grandes offrandes. C'est un merveilleux développement de bienfaits. Néanmoins, cette vieille mendiante a développé encore plus de bienfaits par sa sincérité et sa joie de vous voir faire ses dons. » Le roi fut contrarié car la mendiante avait pris sa place. Alors, un ministre rusé élabora un plan pour plaire à son souverain. Il attira les mendiants avec de belles offrandes de nourriture, puis les fit rosser. La vieille femme se mit en colère contre le roi et développa ainsi beaucoup de karma négatif. Ce jour-là, Bouddha Sakyamuni ne la mentionna pas lors de la dédicace. Cette histoire montre que les bienfaits dépendent plus de la motivation et de l'état d'esprit que de l'acte lui-même. Motivation, l'état d'esprit sont déterminant dans l'acte positif ou négatif. La production d'un karma dépend à la fois de l'intention et de l'acte accompli. Une mauvaise intention peut accompagner une action généralement positive. Il en serait ainsi dans le cas d'une offrande faite pour acquérir de la renommée. Inversement, une bonne intention peut accompagner un acte généralement négatif. C'est le cas, par exemple, si l'on bat un proche ou si on lui dit des mots durs afin de lui rendre service. Dans tous les cas, la motivation est déterminante. L'état d'esprit détermine la qualité de l'action. Un exemple célèbre à ce sujet, le Bouddha capitaine. Dans une vie antérieure, le Bouddha fut capitaine d'un navire. Un jour, alors qu'il transportait 500 marchands, vint un brigand qui s'apprêtait à les tuer tous pour s'emparer de leurs richesses. Pris d'une grande compassion pour le brigand et pour les marchands, considérant que si le bandit commettait son acte, il subirait en conséquence d'innombrables éons d'états infernaux, avec une pensée altruiste et compatissante, il le tua et sauva ainsi la vie des 500 marchands. Il avait alors lui-même commis un meurtre. Mais sa motivation réellement altruiste et désintéressée fut la source d'un énorme karma positif, car son acte était vraiment bénéfique. Il y a des circonstances limites et extrêmes, et ici, le meurtre fut bénéfique, l'élimination du bandit terroriste qui s'apprêtait à tuer 500 personnes, tout négatif que soit le meurtre, fut un acte positif. Le mensonge peut aussi être bienfaisant dans certains cas. Par exemple, pour sauver la vie. Si un meurtrier cherchait quelqu'un pour l'assassiner et demandait où est cette personne, lui indiquer une fausse direction pour sauver la vie de cette personne est bénéfique. Là aussi, le mensonge, tout négatif qu'il soit habituellement, peut, dans certains cas, dans une motivation de compassion, d'aide, de bienveillance, altruiste et désintéressée, être positif. Maintenant, quelques considérations sur les composantes et résultantes karmiques. Les différentes composantes de notre karma se combinent pour produire en résultante toutes les expériences et les situations que nous connaissons. Lorsque s'épuisent les conséquences d'un karma, le karma suivant s'actualise, le premier pouvant être positif et le second négatif ou inversement. Il y a des combinaisons, des composantes et aussi des alternances d'imprégnation et de conditionnement karmique qui se succèdent, modelant, induisant, façonnant différentes expériences, différents états de conscience. Par exemple, les combinaisons des karmas mentionnés précédemment sont telles que d'avoir en des existences précédentes protégé la vie a pour conséquence une tendance à avoir maintenant une longue vie. Mais si en même temps l'on a été violent et si l'on a brutalisé autrui, on risquera d'être souvent malade. Si en une naissance antérieure l'on a été généreux tout en souhaitant du mal à autrui, on aura en cette vie la possibilité d'être riche mais d'avoir de nombreux ennemis. Si en une naissance antérieure l'on a abandonné l'inconduite sexuelle tout en semant la discorde autour de soi, on pourra ensuite avoir une femme parfaite, mais avec des risques de mésentente. Si l'on a précédemment évité l'emploi de paroles agressives tout en convoitant le bien d'autrui, on pourra ultérieurement être traité aimablement par tous tout en étant pauvre. Si l'on a antérieurement pratiqué la générosité et fait des offrandes tout en convoitant les biens d'autrui, on pourra naître riche, mais devenir nécessiteux dans cette même vie. Si l'on a antérieurement peu pratiqué la générosité, on naîtra plutôt pauvre, mais si l'on a également respecté, honoré et protégé père, mère et aîné, on pourra aussi être puissant, loué et respecté par tous. Si l'on a été généreux, mais jugé le dharma déplaisant, on pourra ensuite être riche tout en ayant une compréhension erronée des enseignements. Si l'on a antérieurement fait des actes positifs d'une grande force, mais aussi sous l'emprise de passions telles que la jalousie fait des souhaits malveillants, on pourra être doté d'une grande puissance et de grandes richesses et les utiliser pour faire des actes négatifs de grande envergure. Donc, toutes ces tendances, composantes, constituent toutes les nuances de nos expériences, de nos vies. C'est parce que l'on a auparavant développé un karma positif que l'on dispose maintenant de la précieuse existence humaine avec toutes les qualités requises pour la pratique du dharma. Notre karma, nos activités, les situations, notre héritage du passé nous a mis en cette situation favorable. Nous l'apprécions et nous pouvons nous dire que nous allons l'utiliser, la mettre à profit pour bien cheminer sur la voie d'éveil, pour le bien de tous. Un moment de méditation et de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.